La venue de Glaurung. Or donc la puissance et la malfaisance de Glaurung croissaient à vive allure, et il se fit gros et gras, et il rassembla tous les orques sous ses ordres, et régna comme roi dragon, et tout le royaume dévasté de Nargothrond lui était asservi. Et avant la fin de l'année, la troisième du séjour de Turambar parmi les forestiers, Glaurung commença à s'en prendre à leur terre, qui un temps avait connu la paix. Car Glaurung et son maître savaient fort bien qu'à Brethil vivaient encore une poignée d'hommes libres, les derniers rescapés des trois maisons, défiant la puissance du Nord. Et cela, ils ne le pouvaient souffrir. Car les desseins de Morgoth étaient de soumettre tout le Beleriand et d'en fouiller jusqu'au dernier recoin, afin qu'il n'y ait être vivant en quelque trou ou cachette qui ne soit son esclave. Aussi bien, peu importe en vérité que Glaurung ait deviné où se dissimulait Turin, ou, comme le pensent certains, que Turin ait échappé effectivement pour un temps à l'œil maléfique qui le traquait. Car les conseils de Brandir devaient se révéler vains. Et en définitive, Turin Turambar n'avait plus qu'une alternative possible. Se croiser les bras jusqu'à ce qu'on le dénichât et le débusquât comme un rat. Ou aller au combat et s'y faire connaître pour ce qu'il était. Mais lorsque les premières nouvelles des incursions des orques parvinrent à Efelbrandir, il ne se montra pas et accéda aux prières de Niniel. « Car, dit-elle, nos maisons ne sont pas encore menacées.
Et ce furent là tes paroles.
On prétend que les orques sont peu nombreux, et Dorlas m'a dit qu'avant ta venue, de telles échauffourées étaient choses fréquentes, et que les forestiers les avaient tenues à distance. » Mais cette fois, les forestiers eurent le dessous, car c'étaient des orques d'une espèce particulièrement cruelle, des créatures féroces et rusées, et ils venaient, bien résolu à envahir la forêt de Brethil, et non point, comme à d'autres reprises, seulement pour passer en lisière à l'occasion d'autres missions ou pour chasser par petites bandes. C'est pourquoi Dorlas et ses hommes furent refoulés avec des pertes, et les orques franchirent le Teiglin et rôdaient loin dans les bois. Et Dorlas se présenta devant Durambar et lui montra ses blessures, et lui dit
« Vois, Seigneur, le temps de l'avènement de notre détresse est venu après une paix trompeuse. » Tout comme j'en avais le noir pressentiment. N'as-tu point demandé d'être considéré comme l'un des nôtres et non comme un étranger? Ce péril n'est-il pas le tien aussi bien? Car nos habitations ne resteront pas secrètes si les orques pénètrent plus avant dans notre pays. »
Alors Turambar se leva, et il ceignit de nouveau Gurthang, son épée, et il partit au combat. Et lorsque les forestiers le surent, ils reprirent cœur, et ils se rallièrent à lui, de sorte qu'il se trouva à la tête de plusieurs centaines d'hommes. Alors ils pourchassèrent l'orque à travers toute la forêt, et ils tuèrent tous ceux qui s'y faufilaient, et les pendirent aux arbres autour des passages du Teiglin. Et lorsque fut envoyée contre eux une nouvelle troupe, ils la prirent en embuscade, et surpris tant par le nombre des forestiers que par la terreur qu'inspirait le retour du Noir Épée, les orques furent défaits et tués en masse. Et les forestiers construisaient de grands bûchers, et ils brûlèrent les corps entassés des guerriers de Morgoth, et la fumée de leur vengeance s'éleva, noire jusqu'aux cieux, et le vent l'emporta vers l'ouest. Mais peu de survivants revinrent à Nargothrond rendre compte du désastre. Alors Glaurung se mit en grand courroux, mais il demeura quelque temps immobile à méditer ce qu'il avait entendu. Ainsi l'hiver se passa dans la paix, et les hommes dirent
« Gloire au Noir Épée de Brethil ! Car voici tous nos ennemis vaincus. »
Et Niniel fut rassurée, et elle se réjouit de la renommée de Turambar. Mais il restait assis, plongé dans ses réflexions, et en son cœur, il se dit « À présent, les dés sont jetés. Voici l'épreuve où ma gloire sera justifiée ou réduite à néant. Je ne fuirai plus. Turambar, certes, je serai, et par ma propre volonté et par mes hauts faits, je triompherai de mon fatal destin, ou je tomberai. Mais à genoux ou à cheval, Glaurung au moins, je tuerai. » Il était inquiet cependant, et il envoya des hommes audacieux en reconnaissance le plus loin possible. Car en fait, et bien que rien n'ait été dit sur la chose, c'est lui qui commandait tout, comme s'il était seigneur de Brethil, et plus personne n'écoutait Brandir. Vint un printemps chargé d'espoir, et les hommes chantaient en travaillant. Mais ce printemps-là, Niniel conçut, et elle se fit pâle et hâve, et toute sa gaieté s'embruma. et on reçut bientôt d'étranges nouvelles, car les hommes qui avaient poussé au-delà du Teiglin racontèrent qu'un terrible incendie faisait rage dans les bois sur la plaine du côté de Nargothrond, et ils se demandèrent tous ce que cela pouvait être. Et sous peu, vinrent d'autres rapports. Les feux se rapprochaient, avançant directement vers le nord, et on disait que c'était Glaurung lui-même qui les allumait, car il avait quitté Nargothrond et il était de nouveau sorti pour quelques campagnes. Alors les moins avisés et les plus confiants dirent « Son armée est détruite, et il a enfin entrevu la sagesse, et il s'en va par où il est venu. » Et d'autres dirent « Espérons qu'il passera à bonne distance de nous. » Mais Turambar n'entretenait aucun espoir de cet ordre, et il savait que Glaurung venait pour le trouver. Aussi, bien qu'il cachât son souci à Niniel, il réfléchissait sans répit et de jour et de nuit aux décisions à prendre. Et voici que le printemps se mua en été. Un jour, deux hommes arrivèrent à Efelbrandir, terrifiés, car ils avaient aperçu le grand ver en personne.
« En vérité, seigneur, » dirent-ils à Turambar, « il s'approche maintenant du Teiglin et ne s'écarte point d'un pouce. Il s'étale là, tout environné de flammes, et les arbres se consument en fumée autour de lui. Il émet une puanteur à peine supportable, et sur des lieux et des lieux jusqu'à Nargothrond, ses traces immondes s'étirent en droite ligne, et nous pensons qu'elles ne bifurquent point, mais se dirigent sur nous. Qu'allons-nous faire ?»«
Pas grand-chose, » dit Turambar. « Mais à ce pas grand-chose, j'ai mûrement réfléchi. Les nouvelles que tu apportes me donnent espoir plutôt qu'effroi. » Car s'il va tout droit, comme tu dis, et ne dévie pas, alors j'ai un conseil pour les cœurs intrépides. » Les hommes s'interrogèrent, car il n'en dit pas plus sur le moment, mais il fut rasséréné par la fermeté de son maintien. Or, voici quel était le cours du Teiglin. Il dévalait des Eredwethrin, aussi impétueux que le Narog, puis coulait d'abord entre des rives basses jusqu'au-delà des passages. Là, grossi par les affluents, il se taillait un chemin au pied des hautes terres qui portaient la forêt de Blethil. Et dès lors, il s'enfonçait dans des gorges profondes dont les vertigineuses parois étaient comme des murs de roc. Et là, resserrés dans leur lit encaissé, les eaux se ruaient avec une force terrible et un fracas épouvantable. Et une de ces gorges s'ouvrait juste sur la route de Glaurung, non point la plus profonde, mais la plus étroite, un peu au nord de la confluence du Teiglin avec le Celebros. Alors Turambar envoya trois hommes audacieux pour guetter du haut des berges les mouvements du dragon. Et il décida, quant à lui, de chevaucher jusqu'aux hautes chutes de Nengirith, où les nouvelles pouvaient lui parvenir promptement et d'où il lui serait loisible de surveiller lui-même un vaste horizon de pays. Mais d'abord il rassembla tous les forestiers à Efelbrandir et leur parla en ces termes.
« Hommes de Blethil, un péril mortel est sur nous, que nous n'écarterons qu'avec une grande vigueur. Mais dans ce péril, le nombre n'aura que peu d'intérêt. Nous devons user de ruse et espérer que la fortune ne nous sera pas contraire. Si nous attaquons le dragon de front, avec toutes nos forces, comme si nous marchions contre une armée d'orques, nous ne ferons guère que nous livrer tous à la mort, laissant nos femmes et tous les nôtres sans défense. C'est pourquoi je dis qu'il vous faut rester ici, et vous préparez à fuir. Car si Glaurung vient, alors il vous faudra abandonner ce lieu et vous disperser de par le monde. Et qui sait, certains ainsi réchapperont et survivront. Car une chose est certaine, s'il le peut, Glaurung viendra en notre place forte et demeure, et il la ravagera de fond en comble avec tout ce qu'il y découvrira. Mais il ne s'attardera pas ici. Tous ses trésors sont entassés à Nargothrond, et il y a là-bas des salles souterraines où il peut reposer en sécurité et grossir. » Et les hommes furent atterrés et cruellement accablés, car ils avaient confiance en Turambar, et ils s'étaient attendus à des paroles d'espoir. Mais il dit, poursuivant, « Eh bien non, ceci est la pire éventualité, et qui n'adviendra pas, pour peu que ma résolution soit juste et ma chance bonne. Car je ne crois pas que le dragon soit invincible, bien qu'il n'ait cessé de croître en force et en malfaisance avec les années. Je connais un peu cette créature. Son pouvoir tient plus à l'esprit du mal qui l'habite qu'à la vigueur de son corps, toute grande soit-elle. Car écoutez maintenant ce récit qui me fut fait par certains qui combattirent l'année des Nirnaeth, lorsque moi-même, et la plupart de ceux qui sont là à m'écouter, n'étions que des enfants. Sur le champ de bataille, les nains lui tinrent tête,
et Azaghal de Bélégost le poignarda si profondément qu'il prit la fuite et rentra à Angband. Et voici une épine autrement longue et acérée que le couteau d'Azaghal. Et d'un geste ample, Turambar dégaina Gurthang et la brandit au-dessus de sa tête. Et à ceux qui regardaient, il sembla qu'une flamme avait jailli soudain de la main de Turambar à plusieurs pieds dans les airs. Et ils poussèrent une grande clameur.
« La noire épine de Brethil !»«
La noire épine de Brethil !» dit Turambar.
« Et Glaurung a certes bonne raison de la craindre, car sachez bien ceci, il est dans le destin de ce dragon, et de tous ses frères, dit-on, que si épaisse soit sa carapace de corne, même plus dure que le fer, il doit se contenter d'un ventre de serpent. Alors, homme de Brethil, je m'en vais à présent trouver le ventre de Glaurung comme fer se pourra. Qui viendra avec moi? Il m'en faut peu, mais qui ait les bras solides et le cœur plus solide encore. »
Alors Dorlas s'avança et dit
« Je te suivrai, seigneur, car je préfère toujours prendre les devants plutôt que d'attendre l'ennemi sur place. »
Mais tel était l'effroi qu'inspirait Glaurung que sur l'instant, nul autre ne répondit à l'appel, car le récit des éclaireurs qu'il avait aperçus avait fait le tour du pays et s'était vu exagéré. Alors Dorlas s'écria
« Écoutez bien tous, hommes de Brethil. Il est clair maintenant que face aux maux de notre temps, les conseils de Brandir étaient illusoires. Ce n'est pas en se cachant que l'on y échappera. Aucun d'entre vous ne prendra-t-il la place du fils de Andir afin de sauver l'honneur de la maison de Haleth ?»
Ainsi fut bafoué Brandir, pourtant assis sur le siège du seigneur du lieu, mais dédaigné de tous. Et il en conçut une grande amertume en son cœur, car Turambard ne réprimanda pas Dorlas. Sur ce, un certain Unthor, parent de Brandir, se leva et dit
« Tu fais mal, Dorlas, de prononcer des paroles d'humiliation à l'encontre de ton seigneur, dont les membres, par un hasard malheureux, ne peuvent agir comme l'y incite son cœur. Prends garde qu'à l'occasion un mal inverse ne se décèle en toi. Et comment peut-on prétendre que ses avis étaient mal fondés alors qu'on ne les a jamais suivis? Toi, son vassal, tu les as toujours contrés. Je te déclare que si Glaurung vient sur nous maintenant, comme jadis sur Nargothrond, c'est parce que nos exploits nous ont trahis, comme le craignait Brandir. Mais voici ce malheur à nos portes. Aussi, avec ton congé, fils de Andir, j'irai guerroyer pour la maison de Haleth. »
Alors Turambar dit « Il suffit de trois. Vous deux prendrai-je avec moi. Mais seigneur, je ne te bafoue pas. Vois donc, il nous faut faire vite et notre tâche exige des bras et des jambes à toute épreuve. Je considère que ta place est auprès de ton peuple, car tu es sage et tu es grand guérisseur, et il se peut qu'on ait fort besoin de sagesse et de soins dans les jours à venir. » Mais ces mots, bien que dits en noble part, aggravèrent d'autant la rancœur de Brandir, et il dit à Unthor « Va donc, mais tu n'as pas mon congé, car une ombre repose sur cet homme, et elle sera ta perte. » Or donc Turambar était pressé de partir, mais lorsqu'il vint faire ses adieux à Liniel, elle le tint étroitement embrassé, sanglotant désespérément.
« Ne te montre pas, Turambar, je t'en supplie, » dit-elle. « Ne défie pas l'ombre que tu as fui, non, non, fuis donc encore et prends-moi avec toi et fuyons au loin. »
« Niniel, très cher, » répondit-il, « nous ne pouvons fuir plus loin, toi et moi. Nous sommes prisonniers de ces terres, et quand bien même je partirais, abandonnant le peuple qui nous prie en ami, je ne pourrais guère t'emmener que dans les solitudes sauvages, sans un toit pour t'abriter et à une mort certaine pour toi et pour notre enfant. Il y a une centaine de lieues entre nous et les premières contrées encore hors d'atteinte de l'ombre. Mais prends courage, Niniel, car je te le dis à toi, ni toi ni moi ne serons tués par ce dragon, ni par aucun ennemi venu du nord. »
Alors Niniel cessa de pleurer, et elle demeura silencieuse, mais son baiser était froid lorsqu'ils se séparèrent. Et voici qu'en compagnie de Dorlas et de Unthor, Turambar partit précipitamment pour Nengedith, et lorsqu'ils arrivèrent, le soleil baissait à l'horizon et les ombres s'allongeaient. Et les deux derniers éclaireurs étaient là, qui les attendaient.
« Tu ne viens certes pas trop tôt, seigneur, » dirent-ils, « car le dragon a fait du chemin, et déjà, comme nous partions, il avait atteint la rive du Teiglin et dardé un noir regard par-dessus le torrent. Il se déplace toujours de nuit, et nous pourrions bien nous attendre à quelques coups avant l'aube. »
Tulambar scruta l'horizon jusqu'au-delà des chutes du Celebros, et il vit le soleil qui sombrait dans le couchant et de noires colonnes de fumée qui montaient des bords de la rivière.
« Il n'y a pas de temps à perdre, » dit-il, « et cependant ce que j'apprends là est de bon augure, car je craignais qu'il ne fouillât les environs, et s'il avait pris au nord et avait atteint les passages et au-delà, poussé jusqu'à l'ancienne route du bas-pays, alors tout espoir aurait été perdu. Mais maintenant le voilà qui va droit devant lui, conduit par la violence de son orgueil et de sa malveillance. »
Mais parlant ainsi, Tulambar s'interrogea et en son fort intérieur il se dit « Ou bien se pourrait-il qu'une créature aussi mauvaise et terrible évitât les passages, tout comme le font les orques ?»«
Oh, Neneleth, Finduila se repose-t-elle encore entre moi et mon destin ?»
Et il se tourna vers ses compagnons et dit
« Notre tâche est là qui nous attend, mais il nous faut patienter encore un peu, car dans ce cas trop tôt ne vaut pas mieux que trop tard. » À la nuit tombée, il nous faudra nous glisser aussi furtivement que possible jusqu'au lit du Teiglin. Mais attention, l'ouïe de Glaurung est aussi perçante que sa vue, et elles peuvent nous être fatales l'une et l'autre. Si nous atteignons la rivière à son insu, nous devrons alors descendre dans le lit du ravin et passer l'eau, de manière à nous trouver sur le chemin qu'il empruntera lorsqu'il s'ébranlera.
« Mais comment fait-il pour progresser si vite ?» demanda Dorlas. « Agile, il l'est. » « Mais c'est un gigantesque dragon, et comment fera-t-il pour descendre d'une paroi et escalader l'autre, alors qu'une partie de lui doit se mettre à grimper avant même que son train arrière ait fini de descendre ? Et même s'il peut avancer de cette manière, à quoi donc cela nous servira-t-il de nous trouver en bas, dans les eaux déchaînées ?»«
Peut-être le peut-il, » répondit Tulambar. « Et certes, s'il procède de la sorte, les choses tourneront mal pour nous. Mais d'après les rapports que nous avons reçus, et d'après le lieu où il gît aujourd'hui, j'ai bon espoir que son dessein est tout autre. Le voilà parvenu au bord de Kabed en Arras, le sceau du cerf, ce gouffre qu'un cerf, dites-vous, franchit d'un bond, échappant ainsi aux chasseurs de Haleth. Glaurung est devenu si grand qu'il va, je pense, tenter de passer par-dessus. C'est là tout notre espoir, et nous devons nous y confier. » À ces mots, le cœur de Dorlas défaillit. Car il connaissait mieux que personne le pays de Blethil, et Kabed en Arras était un lieu sinistre entre tous. À l'est, la paroi tombait à pic sur près de 40 pieds, dénudée sinon pour quelques arbres qui poussaient à son sommet. L'autre versant était plutôt moins abrupt et moins élevé et recouvert d'arbres aux branches tombantes et de buissons rabougris. Entre les deux versants, le torrent courait avec furie sur les rochers, et si un homme audacieux et aux pieds sûrs pouvait passer à gué de jour, il y avait grand péril à tenter la traversée de nuit. Mais telle était la résolution de Tulambar, et il n'y avait point à s'y opposer. Ils se mirent en route au crépuscule, et ne se dirigèrent pas droit sur le dragon, mais prirent d'abord le sentier menant au passage. Mais avant de les atteindre, ils bifurquèrent vers le sud et empruntèrent une piste étroite qui s'enfonçait dans la pénombre des bois environnant le Teiglin. Et comme ils approchaient de Kabed en Arras, pas à pas, et s'arrêtant souvent pour prêter l'oreille, il leur parvint un relent de brûlé et une puanteur qui leur soulevait le cœur. Mais régnait alors le calme de la mort, et il n'y avait pas un souffle d'air. Les premières étoiles s'allumèrent à l'est, derrière eux, et de frêles colonnes de fumée s'élevaient toutes droites et fermes contre les lueurs mourantes du couchant. Lorsque Tulambar fut parti, Niniel demeura silencieuse comme une pierre. Mais Brandir vint à elle et dit « Niniel, ne crains pas le pire jusqu'à ce que tu aies cause. Mais ne t'ai-je pas conseillé d'attendre ?»«
Tu me l'as conseillé, en effet, » répondit-elle. « Et en quoi donc cela m'aurait-il aidé ? Car l'amour peut souffrir tout aussi bien et se consumer hors du mariage. »«
Cela je le sais, » dit Brandir. « Cependant le mariage n'est pas chose vaine. » »«
Depuis 2 mois je porte son enfant. » dit Niniel. Mais mon angoisse, me semble-t-il, n'est pas la plus lourde chose à porter. Je ne te comprends pas.
Moi non plus, dit-il, et pourtant j'ai peur.
Quel homme rassurant tu es, s'écria-t-elle. Mais Brandir, mon ami, mariée ou non mariée, mère ou jeune fille, mon angoisse est au-delà de ce que je puis supporter. Le maître du destin est parti loin d'ici défier son destin. Et comment resterai-je à attendre le lent cheminement des nouvelles bonnes ou mauvaises ? Il se peut que cette nuit même, il affronte le dragon, et comment demeurer là debout ou assise et passer ces heures épouvantables ?
Je l'ignore, dit-il. Mais il faut que ces heures se passent, et pour toi et pour les épouses de ceux qui sont partis avec lui.
Qu'elles agissent donc selon les dictées de leur cœur, s'écria-t-elle. Mais quant à moi, j'irai. Je ne laisserai pas maintes lieues me séparer de l'endroit où mon Seigneur se mesure au danger. J'irai au-devant des nouvelles.
À ces mots, plus noire se fit sa peur, et Brandir s'écria
« Cela tu ne le feras point, si je puis m'y opposer, car ce faisant tu mets à risque tous nos plans. Ces lieux qui sont entre lui et nous, elles sont précisément notre chance de salut si le malheur frappe. »
« Si le malheur frappe, je ne souhaiterai point de salut, » dit-elle. « Et à présent ta sagesse est sans objet, et tu ne me retiendras pas. »
Et elle accourut sur la grande place de l'Eiffel devant le peuple encore assemblé, et elle dit haut et fort,
« Homme de Brethil, je ne patienterai pas. Si mon seigneur échoue, alors tout espoir est vain. Vos terres et vos bois seront brûlés au ras du sol, et toutes vos maisons réduites en cendres, et personne ne réchappera. Alors pourquoi s'attarder ici? Je vais maintenant au-devant des nouvelles, au-devant de ce que réserve le destin. Me suivent tous ceux qui sont de même cœur. »
Et nombreux furent ceux qui souhaitèrent se joindre à elle. Les épouses de Dorlas et de Unthor, parce que ceux qu'elles aimaient étaient partis avec Tulambar, et d'autres par compassion pour Niniel et désir de lui venir en aide. Et bien d'autres encore, téméraires et inconscients, et peu familiers du mal, qu'attirait la réputation même du dragon et qui espéraient être témoins d'exploits singuliers et fabuleux. Car ils étaient venus à se faire une idée si glorieuse du noir épée que rares étaient ceux qui admettaient que Glaurung le pourrait vaincre. Aussi se mirent-ils tous en marche précipitamment, une foule considérable, vers un danger dont ils n'avaient pas idée. Et faisant route sans reprendre haleine à la nuit close, ils parvinrent exténués aux abords de Nengirith, que Tulambar avait quitté peu de temps avant. Mais la nuit est froide conseillère, et nombre d'entre eux s'étonnèrent de leur propre précipitation. Et lorsqu'ils apprirent des guetteurs postés là que Glaurung était si proche, et le stratagème désespéré ourdi par Tulambar, le cœur se refroidit, et ils n'osèrent pas à poursuivre. Certains scrutaient les environs de Kabed en Arras d'un regard anxieux, mais ne distinguaient rien et n'entendaient rien, hors la voix glacée des chutes. Et Niniel s'assit à l'écart, et un grand frisson la saisit. Lorsque Niniel et tous les autres furent partis, Brandir dit à ceux qui restaient
« Voyez donc comme je suis bafoué, et de mes avis, il n'est tenu aucun compte, que Tulambar devienne votre seigneur en titre, puisqu'il s'est déjà approprié tous mes pouvoirs, car ici même, je renonce à ma seigneurie et à mon peuple, que personne jamais plus ne vienne solliciter mes conseils ou mes soins. » Et il brisa son bâton. Et en son fort intérieur, il se dit « À présent, il ne me reste plus rien, hors mon amour pour Niniel. Aussi, en quelque lieu où elle porte ses pas, en sa sagesse ou sa folie, il me faut la suivre. En cette heure sombre, l'avenir n'est point prévisible, mais le hasard pourrait bien faire qu'il me soit donné à moi de l'éloigner d'un danger, si d'aventure je me trouvais à proximité. » Et il ceignit une courte épée qu'on lui voyait rarement, et prit sa béquille, et aussi promptement qu'il put, s'en alla boitillant hors des portes de l'Eiffel, à la suite des autres, sur le long chemin qui s'étirait jusqu'aux frontières ouest de Brethil.